m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le processus de la réforme de la police nationale congolaise lancé depuis début de l'année 2000 se poursuit. Selon le colonel Mwalamputu, porte-parole de la police nationale, plusieurs avancées et innovations ont été apportées par cette réforme. Parmi ces innovations figure aussi la mise sur pied d'un cadre légal relatif au statut des policiers et l'institution de la police de proximité à travers le pays. Quel regard portez-vous sur les résultats de cette réforme chez vous à l'adresse pa@radiocapi.net? Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 15 ou au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Jean-Claude Siala est à la mise en onde de ce programme réalisé par Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangé. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pepe Lisungi, vous êtes à Kisangani, Alain Bolodjo à Kinshasa, Denis à Kalemi. On vous accordera la parole d'un moment à l'autre pour que vous puissiez nous donner la situation chez vous. Est-ce que ce projet d'une police de proximité dans la profession, est-ce que cela a été réalisé? Nous reviendrons à vous donc d'un moment à l'autre. Le temps pour nous d'accueillir notre invité, ou les deux invités qui sont d'ailleurs dans ce studio, le commissaire supérieur Moussangou et le commissaire supérieur adjoint Alain Kabengele. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, d'entrée de jeu, monsieur Moussangou, vous êtes commissaire supérieur au CSRP, entendez par là le comité de suivi de la réforme de la police. La première question, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la réforme avance très bien? Est-ce que cette réforme avance?
Entre elle avance et elle avance à grands pas.
Et quel est votre partenaire?
D'abord le gouvernement, d'abord la population, d'abord la police elle-même. Entre elle avance.
Alors quel est le résultat dans son ensemble aujourd'hui?
En tout cas, il y a beaucoup de résultats. Alors je ne sais pas sur quel plan on va pouvoir répondre.
Alors rentrons dans le cadre légal. Parce qu'il y a eu un cadre légal. Et quelles sont les innovations apportées par ces cadres? Je ne sais pas si Alain peut répondre à cette
merci
question.
Merci pour la parole. Les innovations, à première vue, la plus grande innovation apparente d'abord, c'est la structure même de la police. Si vous comparez la structure de la police dans sa loi, la loi de 2002, et la structure de la police par rapport à la loi numéro 11/013 du 11 août 2011, vous vous rendez compte que c'est une structure qui est vraiment très différente, dans la mesure où nous avons, à la police, nous avons 5 structures différentes. La police peut se démembrer en 5 structures. Vous avez la structure de commandement qui est le commissariat général. Vous avez une structure de contrôle qui est l'inspection générale. Vous avez une structure qui est chargée, qui a la compétence, n'est-ce pas, du conseil, qui est une structure conseil du gouvernement en matière de police, qui est le conseil supérieur de la police. Et vous avez les commissariats provinciaux, et vous avez les unités territoriales et locales. Donc c'est une structure tout à fait nouvelle, qui répond à un environnement, à un nouvel environnement politique, depuis le lancement du processus de la réforme de la police par le président de la République. Il fallait que la police s'adapte à ce nouvel environnement, où le chef de l'État avait bien dit qu'il fallait une police moderne, civile, républicaine, professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Mmh. Donc, ça c'est de façon générale. Mais Nous avons quelques innovations majeures. C'est notamment, vous avez aujourd'hui un policier qui a un statut. Le policier a un statut particulier. Mais avant, le policier était confondu à tous les fonctionnaires. Il était régi par la loi de 81 sur les fonctionnaires publics. Aujourd'hui, le policier a
un statut particulier. Au regard de ce qui s'est fait sur le terrain, on peut dire que voilà, on a atteint plus de 60%, par exemple, de cet objectif, lorsque vous parlez d'une police républicaine, une police professionnelle, une police civilisée.
Qu'on a atteint quoi?
Est-ce que vous avez atteint l'objectif?
Je crois que la réforme est un processus. Et l'une des grandes innovations, c'est la réforme par rapport à la formation. Vous n'êtes pas sans
oublier que... Oui, vous dites que c'est un processus, mais aujourd'hui, les caractères républicains de cette police, vous avez atteint quel niveau?
Oui, mais le caractère républicain, je crois qu'aujourd'hui, le policier obéit plus aux lois, uniquement aux lois qu'aux individus.
Oui, quand un policier, nous avons d'ailleurs fait une émission ici, un policier qui tire à bout portant un conducteur de taxi, c'est pas plus tard qu'il le mois dernier, et pourtant la réforme ne date pas d'aujourd'hui.
Mais monsieur, je vous dis que c'est un processus parce qu'en fait, le policier doit être formé. Il y a des policiers qui ne sont pas encore, qui n'ont pas la formation requise. Mais je ne pense pas que vous allez trouver...
Là, vous parlez en termes des défis qui restent. Oui. La grande question de la formation.
Voilà.
Voilà, on va écouter, et puis on va revenir au commissaire supérieur, Moussangou. On va écouter Pépé qui est à Kisangani, Alain Bolodjo à Kinshasa, et Denis à Kalemi. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pépé Lissungi, vous êtes à Kisangani, bonjour. Alain Bolodjo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Capi, bonjour à vos invités, bonjour à tout le monde.
Alors quel regard portez-vous sur les résultats de cette réforme lancée depuis 2000, disons dans votre millier de vies?
Bon, moi personnellement je voudrais adopter le modèle d'analyse proposé par Guy Rocher, qui dit lorsqu'on est en face d'une situation sociale, on doit faire la part des choses entre les éléments structurels et les éléments culturels. En termes des éléments structurels, comme l'ont dit vos invités, effectivement, nous avons constaté que la structuration de la police a sensiblement changé cette structure de la sécurité. Parce qu'avant, on avait la garde civile, on avait la gendarmerie, on avait les gardes civils. Mais aujourd'hui, nous avons une police avec une unité de commandement. Nous voyons, il y a le sous-SIAT, les SIAT, nous avons... de containers. Sur ce plan-là, il n'y a pas assez de problèmes parce que ça entre dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de la police. Mais le problème se situe plus en termes des éléments culturels. Parce que nous savons que lorsqu'on met en place une police, la mission essentielle d'une police est sécuriser les hommes et leurs biens. C'est à ce niveau-là qu'il se pose un problème. Parce qu'on se rend compte que les recrutements... c'est fait par complaisance, parce que lorsque vous avez donné même l'exemple du policier qui avait tué notre concitoyen, on dit non, voilà, il y a certains policiers qui n'ont pas encore suivi une formation. Ils sont déjà policiers. Mmh. Ce qui veut dire déjà à ce niveau-là, il y a un sérieux problème en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'encadrement, mais surtout en termes de motivation. Parce que ces gens-là qui viennent dans la police ont aussi leurs ambitions individuelles. Ils ont besoin d'être motivés parce qu'eux aussi ont des charges au niveau de leurs dépendants. Mmh. Alors lorsqu'on voit le recrutement se faire avec complaisance, lorsqu'on voit qu'on peut donner à quelqu'un qui n'est pas suffisamment formé l'arme, lorsqu'on voit que dans l'unité de commandement il y a des ruptures, lorsqu'on voit que la police est plutôt tournée vers les individus pour satisfaire leurs ambitions politiques, au détriment de la vision de l'État qui voudrait assez que l'on sécurise la population l'air bien, lorsqu'on voit que cette police est aujourd'hui caporalisée, utilisée pour des fins politiques, eh bien, on peut dire que la réforme est loin d'être atteinte. Mmh. C'est vrai que la réforme, de manière générale, est toujours perpétuelle. On ne peut pas dire qu'on a atteint l'objectif, dès lors que l'objectif, l'idéal...
C'est oui, mais Alain Bolodjoa, c'est vrai que c'est un processus, mais il y a un auditeur qui l'a si bien dit, mais ça ne doit pas être ad vitam aeternam, qu'on ne puisse pas atteindre le résultat. Même à mi-parcours, il va falloir qu'on puisse faire une évaluation pour savoir si on est dans les bancs ou on traîne les pieds. Parce qu'en ce moment-ci, quand on parle de la police de proximité, est-ce que dans votre milieu, vous sentez vraiment que cette police, elle est vraiment de proximité?
Bon, nous voyons, je prends le cas de l'IPEN, nous voyons il y a un SIAT, et une SIAT et une sous-SIAT dans les environs. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque vous allez vers la police, d'abord pour faire appel à ces services, on conditionne le déplacement par la prise en charge des transports, par exemple. Il y a des bandits qui entrent chez vous, vous appelez, on vous dit non, voilà, nous pouvons venir, mais il y a un problème de transport. Si vous pouvez déléguer quelqu'un pour payer le frais de transport, vous trouvez ça normal dans un pays qui se veut, qui voudrait sécuriser la population? Effectivement, qu'il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que lorsqu'un responsable de la police dit que non, voilà, ils ne sont pas encore bien formés, mais comment ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Ils ont été recrutés par qui? Ils ont été nommés par qui? Ils ont été déployés par qui? Ils ont été équipés par qui? Et vous voyez aussi certains policiers qui se déplacent avec des armes qui datent de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si ces armes peuvent être utilisées. Donc quelque part, je me dis, effectivement, il y a des avancées, mais il faut renforcer d'abord en termes de dotation, mais aussi en termes de formation pour que nous ayons effectivement une police professionnel et professionnalisé, contrairement à ce que nous voyons
sur le terrain. Merci beaucoup Alain Bolodjoa, il est temps que nos amis, les invités qui sont avec nous dans ces studios, préparent la réaction par rapport à votre souci, mais vous avez tout de même constaté comme eux aussi, qu'effectivement au niveau de la police, il y a la structuration qui a changé. Autrefois, l'inspection de la police se retrouvait ensemble avec les commissariats de la police. Aujourd'hui, c'est des structures différentes. C'est dans le souci toujours de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc d'un côté, quelqu'un qui doit être actif et mener les activités de la police au quotidien, et de l'autre côté, cet organe qui, travaille en termes de contrôle de travail exécuté par la police. Et vous avez souhaité que d'autres défis qui restent, notamment la dotation et la formation, puissent être pris en compte. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa, d'avoir appelé de Kinshasa. Denis, vous êtes à Calémy. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci Radio Kati. Bonjour également aux invités qui sont avec vous au studio.
Alors, quel est votre constat en termes de cette réforme de la police sur le terrain chez vous, à Calémy?
Alors, d'entrée de jeu, je dois d'abord déclarer mon indignation pour avoir entendu ce que le premier commissaire général avait dit ici pour lui que l'informe apporte des résultats attendus, alors que après avec les résultats sur le terrain, pour nous qui sommes la population qui devrions d'ailleurs bénéficier, voire des indices palpables des retombées de ces réformes, pour nous, nous sommes désolés parce que les résultats sont largement négatifs. Je vais m'expliquer. Parce que disons que le rôle principal d'une police à court celle qu'on appelle de proximité, c'est de jouer pleinement son rôle, celui de protéger la population et ses biens. Alors pour ceux qui suivent ce système académique, ils ne vont pas me contredire quand j'ai dit que la police n'est pas à mesure de jouer pleinement son rôle. Or, les réformes ont été entamées depuis 2000 ans. Ceux qui voudraient c'est-à-dire dire que c'est une réforme qui a l'âge de 19 ans. Alors s'il faut comparer cette réforme à un individu humain à 19 ans, on est mature, on peut avoir même un bilan à faire pour sa vie. Nous sommes en face d'une police sous-équipée, nous sommes en face d'une police qui ne présente pas des aspects moraux susceptibles de redorer son image auprès de la population. Qu'est-ce que nous constatons? On a en face une police qui, sur la route, par exemple, je prends le cas typique de la police de circulation routière, qui se capte de sa mission de réguler la circulation pour créer les infractions et tracasser les chauffeurs qui circulent sur la route. On a en face d'une police, donc un agent de l'ordre qui partage les carbones, donc les odeurs d'eau avec les voyous sur le point de vente, donc qui partage du chanvre. Alors, sur base de cela, nous sommes en droit de conclure que cette réforme n'a rien apporté et que les autorités de la police qui se repensent un peu, qui finissent pour faire en sorte que cette réforme-là puisse profiter à la population. Alors si l'État met encore je pense que je peux proposer quelques pistes de solutions parce que ça ne sert à rien de critiquer sans avoir proposé des pistes de solutions. Moi, je crois que tout doit d'abord partir sur ce que l'État accorde à la police afin qu'elle puisse pleinement jouer son rôle. Donc, celui de protéger la population.
La part allouée dans les budgets.
Ça doit partir d'abord par l'humanisation des conditions de vie de nos frères qui ont quitté leur toit familial pour aller servir la nation à travers la police nationale congolaise. Parce que un ventre creux ne peut jamais avoir d'oreille. Un commandant de la police peut bien haranguer ses foules, mais aussi longtemps que ces policiers ne sont pas bien traités. Quel résultat devez-vous attendre de ces policiers-là? Aujourd'hui, dans le quartier, on ne dort plus tranquille. On remarque que nous sommes victimes des vols. Nous les suivons même sur les strates du Grand Katanga, le Boumbassi, voilà. Chez nos voisins.
Merci beaucoup, Denis. Alors, je crois qu'on va accorder la parole également à Pépé Klissouri. Je crois que la ligne s'est améliorée. Pépé, vous êtes avec nous?
Je suis en ligne, Pierrot.
Voilà. Quelle est votre contribution,
Pierrot? Je suis en ligne.
Pépé, quelle est votre contribution?
Oui, j'ai bien suivi le commissaire, j'ai salué le commissaire et j'ai salué aussi les auditeurs de la radio Capi. Si, je commence à dire ceci, si nous qui sommes dans des grandes villes, je suis à Kisangani, chef lieu de la province, je n'arrive pas à alter la réalité de cette réforme qui viendra pour la population qui se trouve à plus de 100 km de Kisangani, à Bafasende, à Banali, à Opala, c'est tout qui est encore. Et puis le bilan que le commissaire a donné, je me demande, c'est avant 2018 ou après 2018? Pourquoi? Parce que, l'invité nous parle de la réforme pour acheter le matériel, de réprimer les activités politiques ou sociales, là, bravo à la police, ça c'est 100%, mais elle n'a pour jouer le rôle qui est en politique d'abord, de garder les personnes et leurs biens, ainsi que d'être équitable, si le jugement, si quelqu'un qui est arrêté au niveau de la migration jugée par un officier de la police ou au niveau du dossier. Donc, cela ne reflète pas la réalité. Bon, si nous parlons de 2019, là, il y a un peu de changement après la prise du pouvoir de l'actuel président. Là, et un peu, ça commence un peu à être amélioré.
Mais je pense, Pépé, les résultats, pour vous, vous mettez ça dans les comptes de ces changements qu'il y a eu en tête du pays, mais la réforme ne date pas d'aujourd'hui. Et comme les invités l'ont dit, c'est tout un processus. Peut-être les résultats, c'est sans d'aujourd'hui, mais c'est le travail qui a été fait en amont, déjà pendant plusieurs années. Parce que c'est un travail de longue haleine.
Oui, il y a quelque chose qui a été fait, mais cela ne pourrait pas être réalisé à 100% ou être concrétisé. Pourquoi? Parce que la police a été précisée. La police devait faire quelque chose, mais elle était comptée par la politique. Maintenant, avant, donc le 8
ans. Donc vous estimez que la police vient d'être libérée maintenant. Merci beaucoup, Pépé. Alors Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue, Sylvain. Vous gardez la ligne. Hein. Vous gardez la ligne. Il est temps peut-être de tenir les réactions rapidement d'André Marie Moussangou, qui est le commissaire supérieur, coordonnateur groupe organisation au comité de suivi de la réforme CSRP.
Bien. D'abord, je remercie tous les intervenants, ils ont eu, chacun ce qui le concerne, raison. Il faut d'abord noter une chose. Nous avons dit ceci, que la réforme, nous n'avons pas atteint encore à 100%. Même pas, vous aviez parlé de 70%, nous n'avons même pas encore atteint 70%, mais je vous ai dit que la réforme était totalement en marche et qu'elle évoluait positivement. Nous avons dit ceci aussi, nous avons noté que notre police, elle était d'abord composé. C'est tout un amalgame, toute une mosaïque, comme nous avons toujours l'habitude de dire. Il y a eu d'abord des gens qui venaient de partout et dont la plupart n'étaient pas formés. Le commissaire supérieur adjoint Kabengele.
Mais là, c'est à quelle période? À quelle époque? Parce qu'avant, avant 97, il y avait la gendarmerie, il y avait la garde civile.
Et nous n'étions pas.
Les problèmes ne se posaient pas. Mais à l'arrivée de l'AFDEL, en 97, il y a eu cet amalgame.
On a eu tout cet amalgame.
Voilà, il faut nous fixer dans les temps et dans l'espace pour que nous
on a eu beaucoup d'amalgames. On s'est retrouvés tous policiers. Le commissaire supérieur Kabengele vous a parlé d'une grande innovation, notamment le statut du policier, qu'il fixe maintenant comment devenir
les conditions de recrutement.
Les conditions de recrutement. Malheureusement, cette loi ne concerne pas les individus qui sont déjà là. Mm-hmm. Donc nous n'avons jamais nié que dans notre police, on s'est retrouvés, y compris des voleurs. On n'a jamais nié cela. Ils étaient déjà là, ils se sont fait recruter, on a eu tout un amalgame. Maintenant, la réforme tend à améliorer tout ça. On n'entre plus à la police n'importe comment. C'est pour ça qu'il a insisté sur le recrutement. Et nous sommes d'accord avec ceux qui disent...
Le recrutement et la formation.
Et la formation. Et la formation au niveau de la réforme a été montée au niveau très élevé. C'est une direction générale des écoles et formations. Donc, elle vient vraiment directement, pratiquement directement, après les coordinations. Donc, c'est déjà un très grand rôle qu'on a donné à la formation. Et cette formation, les écoles de formation n'ont pas encore, au vrai dire, commencé, parce que la réforme coûte très cher au niveau de la mise en œuvre. Mm-hmm. Progressivement, on est en train de restructurer les écoles qu'on a cassées.
Vous avez les partenaires, parce qu'il y a une école vers le Beaumarchais, il y a une autre au commandement.
Oui, mais c'est...
Voilà, au niveau du Beaumarchais, aujourd'hui tenu par colonel Kanyama, au niveau...
Le
général Kanyama. Parce que, voilà. Donc, au niveau du haut commandement également, il y a une école
supérieure. On a des écoles, mais nous sommes plus de 140 000 policiers qu'il faut soit former...
Et qui sont acceptés dans cette école? Tout policier.
Et là, nous reviendrons à cela. Mm-hmm. Il faut, parce que maintenant, c'est l'académie de police qui est... là, il y a un niveau pour entrer à l'académie. Il faut être déjà au moins sous-commissaire. Or c'est le policier que l'on voit sur terrain, c'est rarement à ce niveau-là. Donc, il faut cela. Nous avons... La police, maintenant, elle est républicaine. Elle n'est plus, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est très rare de voir maintenant les policiers... au service des individus. On est maintenant au service de la nation. Mmh. On est une police républicaine. Et ça, c'est très rare, cette affaire d'un individu qui utilise la police à son propre compte. Déjà, c'est une infraction qui est poursuivie par... Donc, ce sont des cas très rares. Qu'il y ait des bévues, n'est-ce pas, comme ce policier qui a tiré sur...
Qui a tiré sur un conducteur de taxi.
Non, les fous, on en a partout, même à tous les niveaux. N'est-ce pas, on en a à tous les niveaux.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Hein. Il a détalé. Hein.
Oui, ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Les individus comme ça, on les trouve. Maintenant, quand l'ami qui est à Kisangani, il n'a pas tort quand il dit qu'il ne sent pas encore la police de proximité. La police de proximité, on l'a expérimentée.
À Kinshasa.
On l'a expérimentée, à Kinshasa, mais disons mieux, on l'a expérimentée au Bas-Congo, dans la ville de Matadi. Et vous allez voir, si vous allez dans cette ville... qu'il y a énormément de changements dans le comportement, dans le mode de résolution de conflits, de problèmes divers à Matadi. Nous l'avons expérimenté dans la ville de Kananga, pas tout Kasaï.
Avec l'appui de l'UNPOL, hein, la police de la MONUSCO.
Oui, il y a la MONUSCO, il y a l'IFID, il y a les partenaires qui nous ont aidés. Vous allez voir, nous avons expérimenté à Bukavu. L'ami de Kisangani, nous avons utilisé Kapalata pour former les policiers qui sont maintenant dans la province de l'Ituri. Donc à Bounia, vous avez et vous voyez un comportement différent parce qu'il fallait former ces gens-là. Vous voyez, maintenant nous sommes l'extension de ce mode de fonctionnement est à Lubumbashi, n'est-ce pas,
et à Kananga.
À Lubumbashi et en Bushma, à Kananga, oui, j'ai parlé de Kananga. On expérimente et ça évolue positivement. Parce que le grand goulot, c'est quoi? C'est non seulement de former ces policiers, c'est les former, et j'ai remercié
Ale Bolodjo qui a parlé de la formation et puis
de
les
la motivation. De la motivation. Ça, c'est, nous l'avons toujours dit, la réforme a toujours dit qu'il veut la sécurité, qui veut un service paye pour ce service-là. Mais ce n'est pas cela seulement. Nous devions améliorer, c'est normal. Il y a les conditions. Il fallait améliorer les conditions socio-professionnelles.
Oui, améliorer les conditions socio-professionnelles.
Donc il n'y a pas que le salaire qui allait seul. Il y a aussi l'environnement de travail, et ça aussi.
Voilà, on va donner également la parole au commissaire adjoint, au commissaire supérieur adjoint, Alain Kabengele. Alain Kabengele, vous êtes expert au cadre législatif. Aujourd'hui, quand on fait l'état d'avancement, on marque une pause sur le cadre légal, n'est-ce pas? Le statut de policiers ou de la police des carrières. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais alors, totalement, on se rend compte qu'il y a, c'est vrai, des innovations, la structure a changé, mais qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport aux efforts? C'est vrai, il y a bon nombre d'auditeurs qui ont réagi, qui ne sentent pas encore déjà les effets de cette réforme. Mais la plus grande question, c'est le financement de cette réforme.
Oui, c'est vrai, par rapport au cadre légal, je vous ai dit qu'il y a eu la loi organique, il y a eu le statut, mais par rapport au cadre légal, toujours, il y a les textes d'application de cette loi sous le statut. La loi, comme vous le savez, est un texte d'ordre de portée générale. Pour que cette loi soit mise en œuvre, il faut qu'il y ait des décrets, qu'il y ait des arrêtés pour pouvoir mettre en œuvre, en application, n'est-ce pas, tous les principes généraux qui sont contenus dans la loi. Et je vous informe qu'au niveau de la réforme de la police, depuis, je crois, 2014, 2015, 2016, il y a des textes d'application, des décrets, des avant-projets de décrets, des avant-projets d'arrêtés qui ont été conceptualisés, conçus au niveau de la réforme de la police, donc du CCRP, et qui se trouvent sur les bureaux des ministres compétents. Voyez-vous? Et là, nous attendons...
Depuis 2014.
2014, 2015, 2016. Il y a tout un tas de textes qui attendent, n'est-ce pas, leur signature, leur publication au journal officiel, pour que tout ce qui concerne, vous avez parlé, il y a un auditeur qui a parlé de la situation sociale du policier.
Parce que l'image que la population a de la police, c'est cette police qui réprime les manifestations, qui n'accepte pas disons, un autre son des cloches, surtout au niveau de l'opposition et tout. C'est ce qu'a dit Pepe et les Soumgui. Ben, la population attend que cette image qui est ternie, l'image de la police qui a été ternie, puisse être changée.
Oui, je crois que si on attend un changement du côté du cadre légal par rapport au comportement du policier, je vous informe qu'il y a un code de conduite du policier qui a été pris au niveau de la réforme de la police. Et il y a également puisque il ne faut pas seulement pour changer, punir. Mais il faut aussi.
Mais je vous donne un cas, la toute dernière décision de la police de pouvoir évacuer des voitures abandonnées, hein, ou des camions abandonnés, qui constituent des lieux de refuge des colonnes. Mais le comportement des policiers actuellement, quand ils passent, au lieu de prendre des véhicules abandonnés, je dis bien des véhicules abandonnés et qui sont peut-être sur des pierres et tout, mais ils préfèrent prendre des véhicules en stationnement. Et ils sont impunis. Je peux vous donner des cas aujourd'hui. Quand vous passez sur Willery, vous verrez autour des 14 heures les véhicules passer pour aller au camp de fourrou là.
Mais alors, je voudrais poser.
Et ce genre de comportement, qui est censé sanctionner, qui est censé, disons, c'est comme pour dire la réforme n'a rien donné.
Non, moi,
je pense que le comportement restait le même. Pendant 10 ans, 15 ans.
Je crois que la réforme, les bénéfices de la réforme, c'est pas seulement les policiers, c'est aussi la population. Cette population qui vit ce que vous appelez les certaines tracasseries, elle doit dénoncer. Pourquoi la population ne dénonce pas? Vous trouvez quelqu'un un policier qui arrache, qui commet une infraction, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Nous, à la réforme, nous mettons le cadre législatif, le cadre juridique qu'il faut. Si vous dénoncez, je crois qu'il y a un principe qui dit la sanction est la plus grande manifestation du droit. Si vous dénoncez, ces policiers seront punis. Voilà. Dénoncer à la hiérarchie, voilà. Dénoncer au poste de plus le plus proche. Mais quand on ne dénonce pas, on essaie seulement de
voilà,
crier.
Monsieur le commissaire Alain Kabengele, on va revenir à vous et à André et à Marie. Il est temps de d'ouvrir encore les standards et d'écouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour Sylvain.
Bonjour, je voudrais saluer les invités. Je
vous
souhaite bien.
Allez-y Sylvain.
Oui, en fait, il faut dire que...
Alors là, il y a des micro-coupures. Est-ce que vous pouvez quitter de là où vous êtes? Vous déplacez un tout petit peu? Voilà, le temps que la ligne s'améliore, on va prendre Justin qui est à Fungurubé. Justin, bonjour. Justin, vous êtes avec nous? Alors, Bathier, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Bathier.
Bonjour, Radio Capi. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent à partir du Congo profond et les invités qui sont au studio. J'interviens ici, monsieur le journaliste, comme un habitant de Goma, qui vous. Je suis vraiment étonné d'écouter qu'il y a la réforme de la police ici à la RDC, parce que nous, on a eu la chance de travailler. Moi, je vous confirme que j'ai travaillé au moins plus de 6 mois avec MONUSCO, avec un projet là de UNPOL qui appuyait la police au niveau de Walikale. J'ai travaillé aussi notre projet à Rutshuru, au moins 6 mois, toujours de l'appui à la police avec MONUSCO, QUIPS, avec appui de UNPOL. Mais ce que les invités sont en train de nous dire, bah, moi je pense que ce n'est pas normal, parce que les réalités que nous vivons sur terrain, c'est autre. Parce que dire que non, il y a une réforme, on ne voit même pas les fruits de cette réforme. Parce que les conditions que la population vit avec les tracasseries de la population, moi j'ai étonné d'écouter qu'il y a eu les réformes. Même les histoires que vous parlez ici de tuer la population à bout portant, c'est pas seulement à Kinshasa. Même à Rutshuru, on a toujours vécu ça. Un policier, un monsieur qui est sorti de Bruce là, il vient directement, on lui dote l'arme, on lui dote les tenues. Directement, il est là, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est déplorable. Moi, je pense que même les invités qui sont au studio là, il serait mieux qu'ils descendent un peu sur terrain pour voir les réalités. Moi, je vous dis, par exemple, à Walikale, monsieur le journaliste, dans leur détachement, ils peuvent vérifier sur place à Walikale, les bataillons de la police qui n'ont même pas une voiture, ils n'ont même pas un type pour intervenir dans leurs opérations. À Rutshuru, ce sont des terrains où il y a beaucoup de problèmes. Qui vérifie ces places? Il n'y a même pas de véhicules. Mobilité, c'est zéro. Mais je ne sais pas quelle réforme qu'ils vont nous dire. Donc, jusque-là, on doit sentir la réforme si la population est gardée, si la population elle est protégée avec ses biens. Tant que nous ne voyons même pas les petits fruits de cette protection de la police, que la population soit vraiment en sécurité avec leurs biens, c'est... On ne voit même pas rien, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup. Merci, Bathier. Alors, je crois que Justin est là. Et là, Justin, vous êtes avec nous? Justin, vous êtes avec nous? Voilà. Réaction rapidement, André.
Ok, très bien. Merci. Je reviens un peu à Bathier, puisque lui, il a dit beaucoup de choses. Bathier, surtout au niveau de l'Est, je répète un peu ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, que notre police était une mosaïque. Surtout à l'Est, on a eu n'importe qui, n'est-ce pas, qu'il fallait...
Avec le brassage, voilà,
merci bien. Et chaque fois qu'on les mettait dans la police, et notre groupuscule se créait et revenait. Et c'est une situation très particulière. Nous descendons effectivement sur le terrain, nous évaluons. Nous avons été à Bukavu. Et nous avons été plusieurs fois invités aussi de l'UNPOL ou de la MONUSCO pour réfléchir ensemble sur ce genre de solutions. Et nous avons trouvé la solution, une des solutions. C'était que de notre loi organique, on a tiré le décret 13-041 qui a porté organisation, création et fonctionnement des comités et des conseils locaux pour la sécurité de proximité. On s'est dit ceci. Si la population d'une commune, d'un quartier, d'une rue se met ensemble et réfléchit ensemble sur leur sécurité, dénonce ensemble aussi bien les mauvais comportements des policiers. C'est pour ça que le commissaire supérieur adjoint Alain vous a parlé de l'inspection générale avec ses antennes qui sont des antennes locales. Et ces antennes reçoivent des plaintes et on porte effectivement. On poursuit effectivement les policiers qui se comportent ainsi. Nous, au niveau du commandement, on ne peut pas savoir que tel policier à tel endroit se comporte mal si la population ne dénonce pas. Et chaque fois qu'on a dénoncé, que ce soit l'inspection générale, que ce soit le commissariat provincial, on arrête ce policier-là. Donc, ces cadres de concertation sont déjà implantés à Bukavu. Ils ne sont pas encore arrivés à Walikale. Ils ne sont pas encore arrivés à Rutshuru. N'est-ce pas? Nous étions là à Bukavu. On en a parlé avec nos amis de la MONUSCO. Il faut des moyens. Il parle effectivement de cette police qui manque encore de moyens. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé celui qui a parlé de concrétiser la réforme dans le budget. Nous avons un plan quinquennal, nous avons la loi de programmation qui n'est pas encore mise dans cette loi de programmation. Que ce soit dans le plan que nous faisons, nous avons parlé de cette dotation. Nous donnons des moyens à l'État de pouvoir réagir.
C'est cela. Alors, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les grands défis à relever que vous voulez sortir dans cette réforme, dans ce processus-là?
Le plus grand défi, il y en a, de deux. Mm-hmm. Il faut d'abord qu'on forme les policiers. Mm-hmm. Il faut qu'on implante, effectivement, puisque la PDP se base sur la recherche...
Qui dit formation, dit moyens.
Moyens.
Alors, à ces jours, la police alloue... quel montant pour la formation des policiers?
Ah non,
est-ce que vous avez une idée?
Ce n'est pas la police
qui alloue. Mais quand vous faites maintenant la réforme, vous tablez sur quel élément?
Disons, nous avons la loi de programmation. Oui. Et nous avons déposé auprès de...
Que dit cette loi de programmation?
Elle a plusieurs objectifs. Donc, le plus grand objectif, c'est la formation. Mm-hmm. Mais c'est au gouvernement de doter cette police de moyens. Ce n'est pas la police de se doter des moyens, c'est le gouvernement qui dote la police des moyens.
Mais la police évalue ses moyens. Il demande à
oui, il évalue le budget. Excusez-moi, je ne suis pas dans les finances, mais elle évalue ses budgets. Elle a évalué son budget.
Donc si je comprends bien, la part allouée pour la formation semble être un peu déficitaire ou minime et n'arrive pas à donner les raisons. C'est pourquoi il y a cette difficulté-là.
Sinon, les écoles de police auraient commencé. Sinon, l'académie, elle a commencé. Elle va sortir d'ici peu. Le premier lauréat. Mmh. Mais tel qu'on forme Andolo, c'est encore une petite quantité de gens. Il faudrait que Kimpoko démarre effectivement, qu'il peut recevoir suffisamment de gens. Vous savez, c'est tout cela. C'est la formation. C'est l'implantation de ces conseils locaux. C'est le partenariat de la population qui doit contribuer elle-même à sa propre sécurité en dénonçant les faits.
Donc si je comprends bien, dans l'exécutif, le répondant de cette réforme, c'est le ministère de l'Intérieur.
Merci bien.
En principe, qui devait mettre à l'exécution toutes les idées, des réflexions menées au niveau de la réforme. À ce jour, comme l'a dit d'ailleurs le commissaire Alain Kabengele, il y a la loi, il y a certains textes qui sont encore qui en attente pour la promulgation et qui n'attendent que des signatures.
Oui. Je voulais ajouter une chose. Hein. Donc, comme l'a dit le commissaire supérieur Moussangou, donc il y a les moyens. Il faut que le gouvernement mette beaucoup plus de moyens par rapport à la réforme de la police. Les moyens, non seulement par rapport aux missions de la police, en termes de véhicules, en termes de tout ce qu'il y a comme équipement et matériel nécessaire à la mission de la police, on ne voit pas se voir la face. Il faut aussi les moyens qui vont essayer de changer le trait de vie du policier. C'est-à-dire que, en fait, monsieur, je vais vous dire une chose.
C'est l'homme qui est au centre.
En fait,
l'homme, si nous décrions les comportements,
l'homme, c'est la ressource humaine la plus importante. C'est la ressource la plus importante, comme vous le dites. Donc, un philosophe français a dit, en dessous du minimum vital, il ne faut pas demander l'honnêteté aux gens. Mmh. Je ne justifie pas, hein, cet égarement des policiers et tout ça, puisque personne n'a la rémunération qui lui faut. Mais je crois que le jour où le policier aura un minimum vital, comme le prévoit les textes de la réforme de la police, je crois qu'à ce moment-là, les gens vont... On ne dit pas qu'à ce moment-là, tous ceux qui ont été toujours...
On va limiter les dégâts.
On va limiter les dégâts. Le valeur restera toujours valeur, mais en tout cas, la propension au dérapage, tout ça va diminuer. Mm-hmm. Le jour où le policier aura un minimum, comme le pouvoir, la réforme de la police.
Voilà, on va écouter Jérémy qui est à Lubumbashi, qui nous a également rejoint à ce niveau du débat. Félicien également, et puis Marcel. Alors Jérémy, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Jérémy, vous êtes avec nous. Voilà, décidément, on a des petits problèmes avec la première ligne. Félicien, vous êtes avec nous? Félicien?
Oui, bonjour, cher. Bonjour aux invités. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Moi, je dis que nous avons l'habitude dans ces pays de voir toujours que tout va bien et on est toujours dans les positifs, même quand ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il y a l'idée de reconnaître que il n'y a pas un seul coin de la République où on a senti la réforme, parce que la police, à part les deux premières années de l'arrivée de Mouzet où on a senti les changements par rapport à ce qui était avant avec la gendarmerie de l'époque Mobutu. Et après, nous sommes tombés encore plus bas et la réforme dont on parle aujourd'hui, personne ne peut dire que dans son quartier, dans son milieu, il a senti quand même un changement. Les seuls sons des cloches que nous connaissons, et quand on vient vous attaquer dans votre quartier, vous appelez la police, ils disent non, ceux qui vous attaquent ont des armes plus lourdes que nous, non, on n'est qu'à deux, il n'y a pas moyen de se déplacer. Et comme les autres avaient dit avant, il faut toujours mener ça, l'air de déplacement. La seule réforme que nous connaissons, quand les responsables de la police envoient les gens pour aller encadrer une manifestation, c'est les vols de téléphones et des sacs de femmes qu'on fouille et tout ça. Et quand vous dites ça à leurs autorités, c'est comme s'ils ont tendance toujours à donner raison à leurs troupes. Et ça, c'est un problème de mentalité qu'on doit changer. La réforme doit commencer par le changement de mentalité, surtout des dirigeants de la police. Parce que, comme on l'a dit, de ce côté-là, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, il faudra que les chefs de la police soient des gens vraiment qui ont changé, qui ont opté pour, l'abandon de la médiocrité, parce que dans notre pays, tout le monde veut faire ce qui est mal, mais il veut qu'on dise que c'est bon. Et toutes les antivaleurs, on doit les échanger en valeurs. Et de cette façon-là, la police atteindra le niveau des autres polices dans le monde, et on pourra parler de la police responsable, respectueuse des droits de l'homme, républicaine, tout ça. Or, aujourd'hui, notre police a commencé par les chefs, il obéit aux politiques. Si le chef politique qu'il a nommé dit ce qui est contre la loi, il va exécuter ce qui est contre la loi. On n'a jamais vu ici un général, un colonel qui dit non. Monsieur le ministre, je ne peux pas exécuter ça. Monsieur le président de la République, je ne peux pas faire ça. Monsieur le gouverneur, je ne peux pas faire ça. Voilà ce que dit la loi. Nous sommes loin de là alors qu'on ne bourre pas les oreilles avec ce qu'on raconte là-bas et qu'on passe aux actes que nous avons besoin de vivre comme des hommes partout à travers le monde.
Merci beaucoup, Félicien. Alors, on va prendre Marcel, qui est à Kinshasa. Marcel, bonjour.
Bonjour, j'ai un rectificatif. C'est Marcel Didier à Luisa. Marcel Didier à Luisa. Ce n'est pas à Kinshasa.
Quel est votre avis, Marcel?
Allô, j'ai un...
Quel est
oui,
votre avis?
Je disais merci à vous de m'avoir associé à ce niveau de débat. Merci également, je salue en passant les deux invités, M. Moussang et M. Alain Kabengé, qui sont dans vos installations. Je m'en vais pour dire que cette démarche, lorsqu'elle a été mise sur pied, la démarche de la réforme en 2000 ans, comme on l'a dit, elle a été tellement saluée. Mais néanmoins, j'ai un principe ici au Congo qui dit, plus nous avançons d'un pas, plus nous reculons de 1000 mètres, Monsieur JR. C'est-à-dire, vous allez voir que les avancées du point de vue pragmatique, j'insiste bien, du point de vue pragmatique, ne sont pas perceptibles dans cette réforme de la police, parce que vous verrez, comme les autres l'ont déjà dit, un enfant de 19 ans, de 2019, cet enfant-là peut avoir quel âge et peut réaliser quoi dans la société. Donc, cette réforme-là, elle est trop théorique et pratique, car les acquis de cette dernière ne sont pas perceptibles dans notre société. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur JR? Vous allez voir, d'ailleurs, c'est dans un débat récemment ici. Vous allez me dire que ces policiers-là ont connu des réformes quand les changements de mentalité est encore loin d'être perçu. Vous allez voir vous-même récemment un policier qui est réformé, qui est dans la réforme, qui va tuer un taximen. Vous-même, vous en avez vécu. Jusque maintenant là, nous ne savons même pas quelle est la suite de ces dossiers-là. Vraiment, ça doit nous interpeller, monsieur JR, vraiment, cette histoire-là. Mmh. Et je m'en vais poser quelques préoccupations aux invités qui sont dans vos installations. Quelles sont les réalisations à impact visible à démontrer? C'était la question que vous avez eu à poser au début là, mais c'est comme si les invités ont eu à balbutier, qui nous disent un peu quelles sont les réalisations à impact visible qui doivent nous démontrer de cette réforme. La deuxième préoccupation, quel est le bilan de la prétendue police de proximité? Vous-même, vous en avez. Et aussi, du point de vue pratique et statistique, dans combien de provinces et territoires cette structure de la police de proximité est-elle installée et pour quoi faire? Voici ma contribution. questions, j'ai dit et je vous remercie, monsieur Gilles.
Merci beaucoup, Marcel, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Trop théorique, selon vous, hein, cette réforme, que pratique. Vous souhaiterez que les invités puissent vous éclairer là-dessus. Quelles sont les réalisations à impact visible de cette réforme et quel est le bilan, d'ailleurs, de la prétendue, selon vos propres mots, pour la protéger ça, la police des proximités. Alors, Marcel, non, Steve, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour. Steve, vous êtes avec nous? Voilà, je me tourne du côté de mes invités. Alain Kabengele, vous avez suivi quand même il y a quand même des questions directes. Hein.
Je voudrais un peu réagir par rapport à la préoccupation, à la question de notre ami qui a dit que non, voilà, nous voyons la police des policiers qui obéissent aux hommes et tout ça plutôt qu'aux lois. Et il a même dit que des policiers. Si leur commandant leur dit non, voilà, faites un comportement qui est contraire à la loi, ils exécutent. Moi, je crois que s'il a des cas comme ça, où il a remarqué qu'il y a un policier
là encore, qui a exécuté il faut seulement y dénoncer.
Comportement, non seulement il faut dénoncer, mais il peut aller devant la justice. Mais je crois que par rapport à ça, il y a un principe. D'abord, il y a l'article 11 de la loi organique qui dit que...
Mais les rares de fois, la population est allée en justice avec les éléments, la police ou encore les militaires.
J'ai besoin d'abord ce qui est prévu. La loi dit que le policier doit s'abstenir d'obéir à un ordre manifestement illégal. Ça, c'est le principe s'il faut faire
parler droit, il y a un principe. Un ordre mal donné.
Voilà. Donc, faut pas exécuter. C'est le principe des baïonnettes intelligentes. Donc, vous devez désobéir à une aide manifestement illégale. Quelqu'un qui, on vous dit, non, voilà, allez piller là-bas, puisque nous avons faim, allez piller, vous exécutez. Non. Ça, c'est non seulement c'est manque de formation, mais aussi c'est un problème moral, comme l'a dit quelqu'un. Donc, sur le plan du cadre légal, c'est une attitude vraiment totalement.
Ça, c'est une réalisation. Mais ça reste sur le plan théorique. Ouais. Des beaux textes, mais des chapelets d'intention. Parce que l'application.
Il faut préciser aussi que, en tout cas, combien de cas où vous avez déjà eu un commandant qui demande à ses troupes d'aller piller ou d'aller arracher des sacs des gens. Non, ça, c'est quand même, c'est peut-être vrai dans les cinémas et.
c'est pas voilà normal, ça. Commissaire supérieur Moussambo, André-Marie, réaction.
Je voudrais répondre quand même un peu à Monsieur Félicien. Monsieur Félicien dit que nous sommes dans un pays où quand ça, de dire toujours que ça va bien, même quand ça va mal, les évaluations, lui n'a vu aucun point de la République où ça marche. Je voudrais dire à Félicien ceci. Que ce soit au niveau du comité de suivi de la réforme de la police, que ce soit au niveau du commissariat général, nous avons fait des évaluations. Nous sommes descendus, nous avons fait le suivi et l'évaluation de la réforme. Je vais lui dire ceci. Ces évaluations, ce n'est pas la police qui les a faites. On les a faites avec la société civile, avec les différents partenaires qui nous ont soutenus, que ce soit l'UNPOL, que ce soit la MONUSCO, que ce soit les DFID, que ce soit... Non, on a fait avec beaucoup de partenaires, avec la société civile.
Vous êtes arrivé à quelle conclusion?
À quelle conclusion? C'est que là où on a expérimenté, ça évolue. Et ça évolue bien.
Notamment le Congo central.
Notamment parce qu'il parle des
Bukavu.
De Bukavu. Dans la ville de Bukavu. Je ne suis pas sorti de la ville de Bukavu. Notamment à Bunia, où ça marche. Ça évolue. Et on a vu toute cette population-là. C'est la population qui atteste elle-même que ça marche. Et si vous allez, que ce soit au PNUD, vous pouvez avoir ces rapports d'évaluation. Donc, nous avons fait ces évaluations. Nous n'avons pas dit que ce n'est pas dans nos bureaux qu'on a dit que ça allait. Nous sommes descendus. Donc, ce n'est pas... Et au niveau de la proximité de la police, la réforme a mis dans un sous-siat plus de 55 personnes. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais comme je venais de dire ici, il fallait accompagner...
55 éléments de la police.
De la police dans un
sous-siat.
Mais il faut les caser dans ces sous-siat. Or, nous avons encore des sous-siat qui sont... Des petites choses.
Oui, quand je vois les sujets tout près de chez moi, le marché, mais dans quelles conditions
cela n'attire.
Mais il y a eu quand même un mouvement au niveau de Barumbu. J'ai vu, on a construit aux côtés du stade au Seine, vraiment un joli bâtiment où on abrite la police. En Galiema, d'ailleurs, tout récemment, on a inauguré ces bâtiments de la police qui fait quand même la fierté de la police. Mais des cas comme ça qu'il faut répliquer et multiplier. et ça demande des moyens. Et c'est pour ça que ça pour le cas d'Engaliema, c'est sur fonds propres du ministère de l'Intérieur.
On fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. On fait beaucoup d'efforts. Et nous, quand nous disons, je suis à Kananga, parce que je vais vous parler d'un cas de Kananga, où des gens eux-mêmes, la population elle-même, un commerçant a donné un terrain pour la construction d'un sociat. Un terrain, une parcelle, on a construit un sociat. Maintenant, la police a un endroit pour s'abriter, n'est-ce pas? Et ça se voit, c'est cette recherche de partenariat qui est dans le PDP. Le partenariat.
Et là, ça change quand même l'image de la police.
Ça change l'image de la police.
On a plus peur de la police parce que les containers, ça faisait peur.
Il y a des gens qui ont des containers, il y a des endroits où il n'y a pas.
C'est affreux, ça.
Où il y a, j'ai vu à la télévision Molière. On a montré, j'avais honte de regarder ça. Je crois qu'il me pensait que des petites tôles. Et j'ai vu la société. Non, c'est tout ça qui doit changer. C'est quand on change cet environnement physique. N'est-ce pas?
Et tout ça, ça demande des moyens.
Tout ça, ça demande des moyens.
D'où donc, il faut donner accorder les bénéfices d'urgence à tous ces textes qui traînent encore au niveau de. Et aussi passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à son application.
Quand Marcel dit qu'il veut voir des réalisations à impact visible, n'est-ce pas?
Évidemment, c'est déjà les cadres légaux, c'est visible.
C'est visible. Mm-hmm. Les provinces où on a expérimenté ça. S'il va à Matadi, il va trouver. Il est à Matadi, le commissaire provincial de Matadi travaille dans un bureau qui montre qu'il est commissaire provincial et qui n'a pratiquement rien envié à celui du gouverneur. Donc, les policiers sont, que ce soit au niveau des sociétés, vous trouvez un sociétés où les gens, le citoyen se présente sachant qu'il est dans un poste de police. Vous allez le voir partout en expérimenté. Ce sont des choses à impact visible. Qu'ils viennent voir maintenant notre commissariat général. Qu'ils viennent voir les écoles. N'est-ce pas? On est en train de faire une académie. Je ne sais pas s'il y en a deux dans l'Afrique centrale, parce que je n'ai pas voyagé ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a. Mais c'est vraiment une grande académie.
Ça fait la fierté.
Ça fait la fierté et la fierté de
l'individu. Voilà. Alors, si vous le permettez, André Marie, on va écouter Jean-Baptiste, parce qu'il y a deux. On va prendre juste un dernier auditeur et puis on va conclure avec vous. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous à Kisangani?
Oui, je vous écoute.
Oui, rapidement. Vous avez une question ou vous avez une intervention rapidement?
Non, c'est une petite intervention que je voudrais dire.
Oui, rapidement, parce qu'on l'a plus assez de temps. Oui.
Nos invités, mais ceux qui sont en train de nous régaler sur les mêmes discours depuis longtemps. Comment parler d'une bonne police qui vont réformer? D'abord, ces policiers sont mal payés.
Oui, tout ça, ils ont reconnu ça. Il faut un problème de la condition quand même du travail.
Oui, c'est-à-dire, d'abord, on les trouve, ils sont en train de louer des maisons à travers la cité, ils ne sont pas sur place. Même les exercices, même de quoi, ils ne les font pas.
Voilà.
Toutes les conditions ne sont pas.
Voilà. Réquises. Dommage. On ne saura pas aller plus loin, Jean-Baptiste, avec vous. Il nous reste une minute pour la conclusion. En tout cas, André-Marie, la réforme, tiens, ça marche. Il y a beaucoup à dire, hein. Mais je ne sais pas parce que bon, on aura quand même une émission spéciale sur ça. Juste en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? La réforme se poursuit.
Elle se poursuit. Et avec l'apport de la population, l'apport de l'État. La réforme aboutira.
Alors, entre-temps, les cadres légaux, les textes qui sont encore sur les bureaux, les différents bureaux.
Oui, je vous dis que il y a eu deux textes importants, la loi organique et le statut du policier. Mais il faut maintenant des textes d'application, c'est-à-dire les différents avant-projets de décrets et d'arrêtés qui vont mettre en œuvre le statut. Parce que le statut du policier prévoit beaucoup de.
Il y a beaucoup d'avantages.
Pour que cela soit effectif, il faut que ces textes d'application loi soient pris, soient publiés au journal officiel. Et ça, c'est encore un problème au niveau.
Voilà, on va y revenir. En tout cas, c'était un sujet très vaste. Aujourd'hui, on a fait d'abord notre part, la proximité. Merci, commissaire supérieur Moussangou, André-Marie. Vous êtes coordonnateur, groupe organisation au comité de suivi de la réforme, CSRP. Et merci également à Alain Kabengele, commissaire supérieur adjoint, expert en cadre législatif, au cadre législatif et réglementaire. Voilà. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans ces studios. On prend rendez-vous très prochainement. Merci à toute l'équipe qui a concouru également à la production de cette émission. À vous tous, nous disons merci d'avoir contribué par vos réflexions. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.